Bon, Baruch HaShem, nous avons commencé le Sefer Shemot et nous le trouvons dans la paracha de Bo. Bo, c'est Gematria Shalosh, Bet Alef, c'est 3, donc il y a les 3 Makot, il y a Arbe, Makat Rocher et Makat Bechorot. Le Ramban, il nous définit que le Chumash Bereshit s'appelle le Sefer Yetzira. Comme ça, le Ramban dit que le Chumash Bereshit s'appelle Sefer Yetzira. Et le Chumash Shemot s'appelle le Sefer Maaseh. Comme ça, le Ramban nous dit.
Vous expliquez en français, ça veut dire quoi?
Je vais tout expliquer. Donc, le Ramban nous dit que le Sefer Bereshit, il s'appelle Sefer Maaseh. Sefer Yetzira. Pourquoi Sefer Yetzira? Parce que ce Chumash-là, son but à ce Chumash-là, c'est de dévoiler le but de la création du monde. La création du monde, dans le Sefer Bereshit, on parle de la briade du monde. Quand on dit Bereshit bara Elohim et Hashem et Baaret, quand on parle de Bereshit bara, le mot bara, ça veut dire la création de ce qu'on appelle de Yesh Me'ayim. C'est ex nihilo, c'est-à-dire du rien au tout. Ça marche, c'est Yetzira, c'est la création. Après, on parle dans le Sefer de Bereshit, on parle aussi de ce qui est les Avot, les patriarches. Et après, on continue dans ce Chumash-là, on parle des fondations des Avot. C'est ça le Chumash Bereshit. Donc le Chumash Bereshit, il parle tout ce qui est la création, la Yetzira, les fondations. Ce que les Avot, ils ont planté. Le Sefer Shemot, par contre, il parle de tout ce qui est Sefer à Maaseh. C'est quoi Maaseh? C'est l'action. Tout ce qui est... Donc au début de Sefer Shemot, on parle de tout ce que les Avot ils ont planté. Et bien, au Sefer Shemot, là, on cueille ce que les Avot, ce que les patriarches ils ont planté. Et... dans Rashi, il dit dans Parashat Vaera, il dit Vaera el Avram el Yitzhak vel Yaakov be El Shaddai Ushmi Hashem lo nodati lahem. Donc le pasuk il dit Ushmi Hashem et le nom d'Akshbaoukou je ne l'ai pas dévoilé. Rashi dit, ça veut dire quoi, je ne l'ai pas dévoilé? Rashi dit lo nikarti lahem be midat amitit sheli shalea nikra Shmi Hashem. C'est-à-dire que, au Avot, je me suis dévoilé, mais je n'ai pas vraiment dévoilé mon vrai nom. Et quand est-ce que je dis pourquoi? Pourquoi il dirait, je crois que je n'ai pas vraiment dévoilé mon nom? Parce que j'ai fait juste des promesses, mais je ne les ai pas accomplies. Donc c'est ça que l'on a dit. Le Chumash Bereshit, c'est un Chumash, c'est une promesse. C'est toutes les fondations. Et quand est-ce qu'il va avoir l'accomplissement? C'est le Sefer Shemot. Sefer Shemot, c'est là qu'il va avoir tous les accomplissements que je vois qu'il a promis. Comme ça, le Ramban il nous définit. Donc le Sefer Bereshit, c'est le Sefer Ayetzira, et le Sefer Shemot, c'est le Sefer Maaseh. Là, ça commence. Donc le Chumash Shemot, la première paracha, elle s'appelle Shemot. Shemot, la paracha de Shemot, elle parle du Ibo. C'est quoi Ibo? C'est la grossesse. Ouais, c'est comme une femme, elle attend un bébé. Après, il y a la naissance, ben, le Sefer Shemot c'est la grossesse de c'est l'engendre, c'est la grossesse du peuple juif. Sefer Shemot, ça parle quand les Bnei Israël ils sont assujettis en Mitzrayim. Et là c'est déjà ça commence, la grossesse commence. Vaera bo beshalach, là c'est plus, il s'agit plus de la grossesse mais on parle de la naissance. Vaera bo beshalach, c'est la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la sortie d'Égypte. Quand il y a la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Il est Tzilat Mitzrayim. Après les autres parashiot, on arrive à Mamad Har Sinai. Mamad Har Sinai, ça veut dire on reçoit la Torah. Et là, c'est l'adolescent. Et après, on arrive à l'apothéose qui est le Bniyat HaMishkan, la construction du Mishkan. Ça, c'est le schéma de tout Shemot. Donc on a la grossesse, la naissance, et après on arrive à la shlemout, au complément, ce qui est Bniyat HaMishkan. Et nous, ce soir-là, on va parler de la naissance du peuple juif, ce qu'il appelle Yetziat Mitzrayim. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tous ces makot? Qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces makot? Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu faire une maka. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin de faire, de se lâcher comme ça? De faire des makot, 10 makot en Yitzhak Mitzrayim, après dans Akriat Samsouf. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, à Yitzhak Mitzrayim, il a fait autant de makot? Ça, c'est la première question. Première question, pourquoi tous ces makot? Deuxième question, pourquoi nous, on n'a pas le scout d'avoir ces nissim? Parce qu'on sait que on n'a pas le scout de voir de tels nissim. On sait qu'à Yitzhak Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, c'était pas des nissim simplement. C'était que Jvorou, il a complètement changé tout le massé de Réchit. Tout ce que les règles naturelles, Jvorou les a changées. L'eau est devenue du sang, il a changé. Donc pourquoi nous n'avons pas le mérite d'avoir des tels nissim? Troisième question, pourquoi tous les autres Galouyot, tous les autres exils, Ajvorou aussi nous a délivrés? On a eu des autres exils, Ajvorou nous a délivrés. Mais comment il nous a délivrés? Il a entré dans la tête de quelqu'un qui va. Bien, il a envoyé quelqu'un, il a envoyé un messager pour pouvoir nous délivrer. Mais à Yetzian Israël, spécialement, il a écrit Ani Velo Malach. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est-à-dire quoi? Ani Velo Malach, moi et pas un ange. Ani Velo Moshe, moi et pas Moshe. Et comme on le voit dans la paracha, si vous remarquez, les 9 premières makot, c'est Moshe, c'est Moshe qui s'occupait des 9 makot. Quand on arrive à la fin des 9e makot, si vous regardez dans le pasoul, il y a écrit où Moshe et Aaron assou et kolamofet. Genre, là on arrête là. Moshe et Aaron, ils ont fini, ils ont fait les mofsim. Jusqu'au 9e, il y a écrit Moshe et Aaron, ils ont fait. Genre, jusqu'à là, on s'arrête. Après, Vachem Otsi Edmi Israël, lui-même, Jvorou lui-même, la dernière Maka, Maka Bechorot, c'est Jvorou qui s'est occupé, c'est Jvorou qui a fait la sortie d'Égypte. Donc, comment c'est possible que tous les autres Galouyot, Jvorou il a envoyé des messagers, et juste à la sortie d'Égypte, lui-même, Ani Velomalar, pourquoi lui, tout simplement, lui il est venu tout seul? Lama Zekara. Et la dernière question, on sait que dans toute la Torah, il est mentionné plus de 50 fois la sortie d'Égypte. Si on regarde, il y a écrit des tonnes de fois Yitzhak Mitzrayim, Yitzhak Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et plus que ça, on sait qu'une grande partie des mitzvot, Zecha Yitzhak Mitzrayim, dès qu'on se lève le matin, Tfilin, Tzitzit, même Mezouza, même qu'il n'y avait pas écrit Yitzhak Mitzrayim, on explique ça pourquoi, mais en tout cas on dit Zecha Yitzhak Mitzrayim. Il y a des tonnes et tonnes de mitzvot qu'on fait Zecha Yitzhak Mitzrayim. Pourquoi autant de mitzvot? Pourquoi parler de... Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Yitzhak Mitzrayim? Qu'est-ce qu'on tire de Yitzhak Mitzrayim? Il faut comprendre le Yisod qu'on tire, ma Yisod. Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, on va ramener le fameux Ramban. Le Ramban, sauf Parashat Bo. Le Ramban, c'est un commentaire. Dans la fin de Parashat Bo, tout le monde doit le connaître. C'est un grand Ramban qui est très, très yesodi, fondamental. Le Majgir de Polovitch, ouais, c'était le Majgir avant, il s'appelle Rabbi Yecheskel Edelstein, il a fait un Sefer Or Yecheskel. Toute sa vie, il vivait Yitzhak Mitzrayim. Il parlait. Il n'y avait pas une sikha, il n'y avait pas un cours. Quand il faisait un cours de Moussa, il n'y avait pas un cours où il ne mentionnait pas le Ramban de Parashat Bo de Yitzhak Mitzrayim. Il vivait Yitzhak Mitzrayim. Après Descartes, une fois, il y avait un autre rab qui s'appelle Rav Don Segal, c'est un grand rab aussi maintenant. Il avait étudié à Kol Torah un moment. Après, il allait étudier à Polovitch. Et quand, un jour, il allait passer un Shabbat à Kol Torah. Et le Majgir de Kol Torah, qui était Rav Gedalia Eizman, qui est Nifta, ça fait pas très longtemps, mais c'est Ronel Vraha. Rav Gedalia Eizman, dès qu'il a vu ce Rav Don Segal venir, il a dit, nous, est-ce que tu as déjà eu le mérite d'écouter le fameux Ramban de Parashat Bo, de Yitzhak Mitzrayim du Majgir quand tu es à Polovitch? C'est-à-dire que je l'ai vu, ce Ramban, c'était quelque chose de très important, ce Ramban. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il va nous dire, ce Ramban-là. Ad Kedekar, le Chazon Ish, après la Shoah, le Chazon Ish, il a dit qu'il reste 3 grands Majgichim. Il a dit, c'est le Mirta Veleu, c'est Rav Dessler, celui qui a écrit Mirta Veleu, c'est Rav Dessler. Rav Eliyahu de Lopian, celui qui a écrit la Veleu. Et Rav Yecheskel Edelstein, les 3. Des trois, il parle de Yitzel Mitzrayim. Seulement, Rav Dessler, c'est plus dans le Sechel, dans la pensée, parce que dans son Sefer, il est un peu philosophique, il réfléchit un peu beaucoup. Rav Yochanan, c'est plus dans le Regesh, dans la sensation, il parle de Yitzel Mitzrayim. Mais dire Rav Chaim Wittgenstein, lui, c'est dans les mains. Yitzel Mitzrayim, il le vivait chaque jour. Ad Kedekar, il y a un enfant. Une fois, il y a un avare qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il allait chez le Mashgiach, il a dit, voilà, je bouge pas de chez toi, je veux une bracha d'abord. Il a demandé, je veux une bracha pour avoir un enfant. Et il a dit, bracha vatslacha. Il a dit, non, je bouge pas d'ici tant que tu ne donnes pas un enfant. Il a dit, je peux pas. Voilà, j'ai fait ma bracha. Il a insisté, il a dit, sachez le Mashgiach, que si j'arrive, j'ai un peu de émounage, je sens un peu Yitzel Mitzrayim, c'est grâce à vous. Dès qu'il a dit ça, il a fait une grande simcha, il a dit, si j'ai réussi au moins à un élève, à lui faire passer ce message de la sortie d'Égypte, et c'est quoi, c'est la Emouna. Alors si j'ai réussi à faire ça, ça vaut la peine, je te promets que tu as un enfant, et pour le prochain il a eu un enfant. Donc voilà, le Ramban, le Parashatbo, on va l'expliquer, il faut de le lire, c'est la fin, le dernier Ramban, il est un peu long mais très très yesosi. Alors dit le Ramban que quand on voit la Parasha, si on le regarde d'une façon un peu non approfondie, ouais, de façon légère, ce qu'on appelle chitri, on peut comprendre que toutes les histoires qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, ouais, tout ce qui s'est passé, par exemple, les Israël, ils étaient assujettis en Égypte, Alors qu'est-ce que le Bourou il a fait? Il a envoyé 10 plaies. Après, comme Paro les a sortis, après Paro il les a poursuivis. Ils étaient coincés, il a ouvert la mer. Après, les Égyptiens, ils ont continué, ils ont refermé la mer. Après, ça continue, ils arrivent au désert, il n'y a pas de manger, Ajbokhu, il fait le nest de la manne. Après, ils continuent le désert, il n'y a pas d'eau, il leur fait le béar de Myriam. Après, ça continue, après ils arrivent, ils veulent rentrer en Israël, ils n'arrivent pas à rentrer en Israël, il y a le Jourdain, Ajbokhu, il ouvre le Jourdain. Donc si on peut comprendre d'une façon un peu légère que Bémet, tout ce que Hachbohu il a fait l'Enissim, c'était pour chaque instant il y avait le nest, c'était pas prévu l'Enissim. Chaque fois qu'il y avait une
chaque fois
qu'il y avait un besoin, Hachbohu il mettait un autre nest. C'est pas qu'il avait prévu cet Enissim. Et après Hachbohu il a dit, bon, si déjà j'étais Mashkia, si déjà j'ai investi, comme on dit. Si déjà j'ai investi avec Bokhu, il dit pourquoi pas le faire un souvenir pour les générations à venir. Si déjà j'ai fait je me suis lâché très fort, ben pourquoi pas le faire le sort de Pessah, parler de ça. Si déjà on peut comprendre comme ça l'histoire. Alors Chaz Shalom de penser comme ça. Ça rappelle celui qui pense une chose pareille, ça rappelle à ce fameux paysan. Il se promène devant la construction de les fameuses tours jumelles. Vous vous rappelez de ces fameuses tours jumelles? C'est quoi le Wafa? Je ne sais pas, mais c'est tours jumelles. Ouais. Donc ce paysan-là, il se trouvait devant la construction des tours jumelles, et il voit que les types, ils commencent à creuser 30-40 mètres de en dessous de la terre. Il comprend pas, il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? On va faire des tours de 110 mètres, de 110 étages, ça va être énorme. Il arrive un autre jour, il voit qu'ils font des fondations, chaque fondation c'est 3-4 mètres d'épaisseur de béton, plein de choses. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Tu sais, dans les étages du bas, on va faire des petits parkings, des petits studios, un petit centre commercial. Et après, à part ça, on va monter 110 étages. Mais il comprend pas, il dit le paysan, ok, je comprends ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'on a besoin de mettre autant de béton dans les fondations? Mettez-le au 110e étage, pas ici les fondations. Alors tout le monde comprend que si on avait écouté, on met les fondations au 110e étage, on n'a pas besoin de Ben Laden pour faire le travail. Sans Ben Laden, si on met le béton au 110e étage, au lieu de mettre les fondations, tout s'écroule. Alors on dit, donc ça veut dire quoi? Que même quand le béton qu'on a mis dans les fondations, c'est pour tenir quoi? Le 110e étage. Alors le Ramban dit la même chose. Yetziat Mitzrayim, ouais, à la sortie d'Égypte, quand Jbochou il a fait les Nissim, pourquoi il a fait autant de Nissim et pourquoi il s'est lâché lui-même et tout ce qui s'est passé? Parce que Yetziat Mitzrayim, ça en fait, c'est là la base, les fondations du peuple juif, premièrement. Et quand, puisque c'est la naissance du peuple juif, c'est le jour de la naissance qu'on a besoin de mettre dans les fondations de la Emouna. C'est-à-dire quoi la Emouna ? C'est-à-dire que montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui survole tout et c'est lui qui gère tout. Donc Akadosh Baruch Hu, pour bien gérer que c'est lui le patron, donc quand il y a les fondations, c'est là qu'il s'est mis complètement, il s'est lâché. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de faire autant de makot, parce que justement, pour les fondations, c'est là qu'on met plein de béton. Pas dans les fondations, c'est là qu'on met les bétons. Mais ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tous les nissins qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est pas que pour la génération de ceux qui étaient en Égypte, mais c'est pas que pour eux. C'est plus que ça. Tous les nissins qu'il y avait en Israël, c'était justement le béton pour les étages d'en haut. C'est-à-dire que les fondations, c'était pour nous. C'est pour ancrer dans chacun de nous la Emouna. Même dans nous. Donc tous les nissins qu'il y a eu, tout la Emouna qu'on a, c'est grâce à Yisrael Mitzrayim. Mais la question qu'on peut se poser, ok, mais pourquoi maintenant Jboko, on avait demandé pourquoi Jboko il ne fait pas des Nissim ? Pourquoi ils n'ont même pas un peu ces Nissim ? Pourquoi nous on n'a pas le mérite de voir des Nissim ? Alors première réponse, que c'est pas si simple de vivre avec des Nissim, parce que le prix qu'on paye quand on vit avec des Nissim, c'est un prix cher. Si on fait des bêtises, alors ça coûte très cher. Et en plus, il y avait un autre machal de Rav Israël Salanter qui raconte qu'une fois, il avait l'habitude d'aller ramasser l'argent en dehors de sa ville, et quand il allait en dehors de sa ville, il allait dormir dans une auberge. Et le patron de l'auberge, c'était qui ? C'était un juif. C'était un juif religieux, croyant, et toujours, chaque fois qu'il venait rester à Saint-Inter, il prenait du limoun. C'est une histoire connue. Et voilà qu'un jour, il arrive dans cette auberge, et voilà qu'il voit que le type de l'auberge, il a complètement tout lâché, tout jeté, plus de kippa, ouais, plus de tzitzit, rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te raconte. Et une fois, une personne qui est venue dans cette auberge-là, c'était un missionnaire, il a commencé à nous faire des belles discours, il a commencé à nous montrer A plus B, il a commencé à nous montrer A plus B, que tout ce qu'on a, que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il ne survole rien. Et c'est quoi la preuve qu'il nous a montré ? Il a pris, c'était un juif, il a pris une belle tranche de jambon, et il a dit voilà, si Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach, c'est-à-dire il survole, il gère ce monde-là, ben si je mange cette tranche de jambon, que je m'étrangle et que je meurs. Si, comme ça, il a dit devant tout le monde, il a dit, je prends une tranche de jambon. Si, quand je mange, je m'étrangle, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Et voilà qu'il a mangé, et il est resté en vie. Il a dit, vous voyez, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Comme ça, il a dit. Il a dit, donc, depuis ce jour-là, j'ai pris la kippa, j'ai tout lâché, et c'est fini. Et Rav Israël Salanter, il n'a pas répondu. Quelques heures après, la fille du patron de l'auberge, elle arrive avec deux diplômes. Un diplôme de maths et un diplôme de piano, de musique. Alors, Rav Israël Salanter, il dit, montre-moi ton diplôme, ah, tu sais faire la musique et tout. Elle dit, ouais, tu vois pas le diplôme ? Non, mais je te crois pas, je veux que tu me montres comment tu fais le piano. La fille, elle dit, non, je te montre pas, j'ai un diplôme. Alors, Israël Salanter était choqué, il va chez son père, il dit, je comprends pas, t'as vu la chutzpa de ta fille, je lui demande de me faire du piano, elle me dit, j'ai un diplôme, elle veut pas me montrer. Alors le père, il va chez la fille, il dit, comment tu t'es comporté avec Rav? Il dit, pourquoi? À quoi ça sert un diplôme? Je vais commencer, chacun qui va me demander la question, est-ce que je vais faire du piano, je vais lui montrer pour lui prouver, j'ai un diplôme, quand regarde mon diplôme, et tu vois que je vais faire du piano, ça sert à ça le diplôme. Alors Israël Salanter, il dit, écoute ce qu'a dit ta fille. Moi aussi je te dis la même chose. Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Toi tu veux. Ce monsieur-là, il voulait qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse un S qui l'étrangle sur place. Akadosh Baruch Hu, il a un diplôme. Yetziat Mitzrayim, c'est le diplôme, que quoi ? C'est le certificat que c'est celui le patron. Il va pas commencer à chaque idiot commencer à lui faire un S pour lui prouver que c'est lui le bon Dieu. On a Baruch Hashem, chaque. Ouais, mais Yetziat Mitzrayim, c'est notre certificat. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde, il nous a montré, il a changé toute la nature, et personne et non seulement il nous a prouvé, mais maintenant on a aussi on a aussi ces témoins. C'est quoi les mitzvot, les tefillin? Quand on met les tefillin, c'est nos preuves que il s'est passé quelque chose. Pourquoi on met ces choses là pour prouver justement que je vois où il est là. Là, ça la preuve. Donc c'est pour ça qu'on a autant de mitzvot. Autant, on a demandé pourquoi on a beaucoup de mitzvot. Parce que ces mitzvot-là, c'est justement la preuve et le certificat de Kadosh Baruch Hu, c'est lui le Mashgiach, c'est lui qui règne dans le monde et c'est lui qui gère tout, même si on ne voit pas. Mais c'est ça la Emouna. On peut aller plus loin. C'est pas que jusqu'à maintenant on a expliqué qu'en fait tous les nissim qui s'est passé, c'était pas que pour, c'était en fait les fondations pour le fondement du peuple juif. Enfin, donc tous les nissim ils étaient aussi pour notre temps. Mais Akjbohu, s'il avait envie de nous sortir, si Akjbohu il avait envie de nous sortir de Mitzrayim, il n'avait pas besoin de faire tous ces nissim là. Il aurait pu très bien nous faire sortir sans faire tous les nissim. Si Akjbohu il a envie, il met dans la tête de chacun que des Mitzrayim qu'il faut les laisser, ça y est, il nous a laissé sortir. Akjbohu justement. Comme on voit dans le Beit HaLevi, un très beau Beit HaLevi sur Kibud Avem. Il dit le Beit HaLevi dans Kibud Avem, il dit que comment les gens ils comprennent d'habitude Kibud Avem par exemple. Les gens ils comprennent que c'est quoi la loi de la nature, c'est qu'il y a un papa, il y a une maman et il y a des enfants. Donc puisque Hashem il a fait en sorte qu'il y a une père et une mère et donc des enfants. Donc l'enfant doit respecter le père, c'est ça. Donc ça qui vous devait, c'est qu'il a fait en sorte qu'il y a un père, et une mère, et l'enfant il sort du père et de la mère. Donc il faut respecter son père. Dieu met à la vie, c'est pas du tout ça. Il dit Akjbaoukou, il avait envie depuis le début. Akjbaoukou depuis le début, il avait envie de faire plus d'avem. Akjbaoukou il avait sa mitzvah de respecter le père. Parce que Jbohru, il avait une mitzvah qu'il fallait respecter le père, en quelque sorte, il a créé que l'enfant, il vienne à travers le père et la mère. Mais c'est pas parce qu'il y a le père, il y a la mère, et après il y a l'enfant qui a quelque chose. C'est le contraire. Il y a la mitzvah, parce qu'il y a la mitzvah de Jbohru. Alors la même chose ici, il y a Yetzel Mitzrayim, ce qu'on veut dire avec Yetzel Mitzrayim, c'est pas que Jbohru, il a créé Yetzel Mitzrayim. Après qu'il a créé Yetzel Mitzrayim, puisqu'il y avait Yetzel Mitzrayim, donc il a pris pour ce. Il a comme preuve que pour sa Emouna. Non. Akjbaoukhou, il voulait, pour pouvoir ancrer sa Emouna, il a fait Yetzel Mitzrayim. Donc Yetzel Mitzrayim, c'était ma mâche. Akjbaoukhou, il a fait Yetzel Mitzrayim pour prouver que Akjbaoukhou, c'est lui qui règne dans ce monde-là. C'est le contraire. C'est pas que d'abord il y avait la sortie d'Égypte, et après Akjbaoukhou il a prouvé. Non, Akjbaoukhou il voulait prouver que Akjbaoukhou c'est lui qui règne dans le monde, et après, pour prouver ça, Akjbaoukhou il a fait en sorte qu'il s'est extrait. Donc qu'est-ce qu'on voit ce lien là? Donc on voit le lien, c'est quoi le lien de Yitzhak Israël, la sortie d'Égypte? C'est le fondement de la Emouna. La Emouna c'est quoi? De croire que Akjbaoukhou c'est lui qui gère. Il faut comprendre, comment c'est possible qu'il y a des gens qui. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Pourquoi? Pourquoi ce mur-là, tout le monde dit qu'il n'y a personne qui discute qu'il est droit? Ouais, il y a personne, toi tu dis pas qu'il est tordu, moi je dis qu'il est droit. Tout le monde dit que ce mur, il est droit. Alors pourquoi la Emouna, tout le monde a des preuves. On a la transmission de la sortie d'Égypte, toute la transmission du peuple juif, elle est là. On a notre certificat. Pourquoi il y a des gens qui ils ont la Emouna et des gens qui n'ont pas la Emouna? Alors la réponse, elle est tout dépend des midot. Ce qu'on appelle la midot de Hakarat HaTov. C'est quoi la midot de Hakarat HaTov? C'est reconnaître le bien. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi Hakarat HaTov? Quand on dit Hakarat HaTov, ça veut dire quoi? Il est écrit dans le tous les Shabbats, on a le scoop que Shabbat, de dire dans Nishmat Kol Chai, on dit Nishmat Kol Chai. Et dans Nishmat Kol Chai, on dit Ve'inu pinu male shirakayam. Et même si notre bouche a été remplie de louanges comme aussi grande que la mer, et notre langue elle soit Rina, Kamon Galav aussi, plein de louanges. C'est même si on arrive à exagérer, puis nous, Maneshira Kayam, Shonenu, Siftotenu, Enenu, ils éclairent comme le ciel, la terre, même si on était plus que ce qu'on est, on ne peut pas réussir à te remercier pour tout ce que tu nous as fait. Comme ça au début on dit, ou dans Nishmat on dit, même si on veut, on ne pourra pas te remercier, tout ce que tu nous as fait. Et après à la fin on dit, Alken, c'est pour cela, et Varim, nos membres, chez Pilaïtaman qui nous a mis, Veroa Kunchama et Nanchama qui nous a insufflé, Velacha Nacha Samta Befin, Hen Hen Yodou, eux-mêmes, ils vont remercier. Alors je ne comprends pas. Ça fait deux secondes, ça dit, même si on est au top, notre bouche elle est remplie, elle est aussi grande de louanges comme la mer, on ne peut pas réussir à te remercier. Et après on dit, non, nos membres, mais nos membres et notre Neshama elle va te faire des louanges. Il faut décider, on peut ou on ne peut pas. Alors la réponse elle est comme ça, qu'il y a deux sortes d'Hakarat HaTov. Il y a deux sortes. Si on veut essayer, Hakarat HaTov, c'est reconnaître le bien. C'est-à-dire reconnaître la mida de Hakarat HaTov, reconnaître le bien que quelqu'un me fait. Quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, c'est-à-dire quoi? Je veux le remercier. Comment je veux le remercier? Si on veut remercier le Jbohu en lui rendant ce que le Jbohu nous a donné, ouais, on veut lui remettre ce que je borouille. Ça, au début, on te dit, Vilou Pinou Maïchara Kayam, si tu veux rendre ce que je borouille t'a donné, tout ça, tu ne pourras pas. Mais par contre, si tu dis pas, moi je suis grand, voilà, les membres que j'ai, la Neshama que j'ai, petit comme je suis, je veux juste reconnaître ce que tu m'as. Pas essayer de te rendre. C'est sûr que l'habitude de quelqu'un, quand il reçoit un bien de quelqu'un, mais la première chose, c'est d'abord. Automatiquement, il peut aussi lui rendre ce qu'il a reçu. Mais c'est pas automatiquement que j'ai besoin de te rembourser. Par exemple, une fois, tu m'as prêté 100 euros, ça ne veut pas dire que Hakarat HaTov, je dois te rendre 100 euros. C'est sûr que l'habitude, c'est si j'ai, je veux te les rendre. Mais Hakarat HaTov, c'est, voilà, une fois j'étais dans la galère, j'ai besoin de cet argent-là, tu m'as aidé, ben je reconnais ce moment-là. Hakarat HaTov, c'est-à-dire reconnaître le bien, mais c'est pas un remboursement. Des fois, le remboursement, il peut être kafou, il peut être le contraire. Parce que des fois, c'est la gava, c'est genre, j'ai pas envie de profiter de toi. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai pas envie de recevoir aucune tova de personne. J'ai pas envie de recevoir, pas besoin de... Alors, une fois, j'avais besoin de 100 euros, j'avais pas d'argent, et je pouvais pas retirer l'argent, hein. J'étais emprunté. Tiens, vite, je les rends. Tu vois, donc quand je les rends, c'est genre pour te dire, ce que tu m'as donné... Voilà, je le remets dans la poche et on se connaît pas. Tu m'as jamais fait de service que je t'ai rendu. C'est pas ça, Hakarat HaTov. Hakarat HaTov, c'est je te rends, peut-être que je peux te rendre, ou je te rends pas. Si je te rends, c'est encore mieux. Mais même si je te rends pas, je reconnais que tu m'as fait, qu'à ce moment-là, j'ai besoin de ce service-là. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Les fondations que Jbokhu il a fait, ouais, les fondations de la Emouna, ouais, que Jbokhu il a fait, c'est de remercier Jbokhu, voilà, Jbokhu, on te remercie tout ce que tu as fait, et on voit maintenant, on réalise tout ce qu'on a, on réalise tout le bienfait que tu nous donnes chaque jour, on réalise grâce à ces Nissim, quand il y avait la naissance, toutes ces fondations là, tout ce que tu as mis, tout le paquet que tu as mis à Yitzhak Israël, et chaque jour que tu nous donnes, on te remercie Jbokhu, on te remercie à Hakarat HaTov, mais on ne peut pas te rendre, on ne peut pas, on te remercie. Et donc comment Jbokhu il a fait ça? Jbokhu il a fait ça avec les 10 makot. En Stam, si on remarque, le Maharal dit que les 10 makot, c'est en relation avec les 10 ma'amarot. On sait que dans la voix c'est écrit Basara ma'amarot nivra olam, avec 10 paroles Jbokhu il a créé le monde. Bereshit, ça fait partie d'une parole, c'est aussi une parole. Parce qu'il y a écrit 10, il y a écrit 9 fois Vayomer. Vayomer, Vayomer, il a dit. Et il a créé des choses avec ses 10. Et Bereshit, Bereshit aussi s'appelle Vayomer. Avec m'a dit Bereshit Name Mahamar. Donc c'est-à-dire qu'il y a 10, en fait, il y a 10 fois que Jbokhu il a dit, qu'avec 10 paroles, il a créé le monde. Et le Maharal il dit que, en fait, ces 10 paroles, les 10 plaies, c'est parallèle aux 10 makot. Ça veut dire en fait que les 10 plaies, les midstream, ils ont essayé d'effacer, de brouiller les 10 paroles que Jbokhu il a fait. Et chaque plaie est venue remettre la parole de Dagbroku. Comme ça le Maharal dit, c'est magnifique. Ça vole un peu plus haut. Ouais, que c'est les disphérodes, mais on va parler aux disphérodes. On va parler déjà aux Mahamarot. Ça veut dire quoi? Alors il dit par exemple, l'exemple de Rocher. C'est magnifique cet exemple-là de Rocher. Le Maharal dit comme ça. Il dit que cependant il y a une différence. Il dit dans les 10 makotes, on sait que les makotes, quand je te donne un coup de poing, ça fait mal. Quand je te donne un deuxième, ça fait encore plus mal, parce que c'est double. Ouais. Donc chaque maka, ça monte. Ouais. Ça va de peu à beaucoup. Ça, c'est les makotes. Il dit par contre, ouais, on monte. C'est-à-dire que quand on arrive à la dixième, makat bechorot, c'était, on est arrivé au summum. Ouais, c'est une bombe. Il a écrit qu'ils ont crié, ils ont hurlé, on disait maka. Tous les makotes, il y avait des morts. Il écrit que Makat Bechorot, c'était vraiment une bombe. Et par contre, les Mahamarot, dans les 10 paroles, c'est le contraire. Le premier Mahamar, c'est Bereshit, c'était le plus gros, c'était la bombe. Et après, ça s'est calmé. Parce que Bereshit, comme on l'a dit, Bara, c'est ex nihilo. Il a créé déjà tout le chromer, toute la matière. Et après qu'il a créé la matière, de la matière, il a fait le monde. Mais le premier jour, c'était le... Donc c'est Rocher, c'était la 9e maka, ça correspond à quelle maka, non? Ça correspond à la maka de... Ça correspond au Mahamar, la parole de quoi? Vaï, or. Quand je vois, il a dit, et voici la lumière. Alors il dit le Maharal, il faut comprendre quoi la relation entre la lumière et le Rocher, c'est complètement... Je ne comprends pas, c'est... Comment le Rocher, comment la maka de Rocher, comment quand je vois, il a amené le Rocher, ça va réparer... Le vaillé or. Il dit le Maharal, il dit quelque chose de très joli. Il dit que. Il y a écrit dans. Quand je m'en fous, il a fait vaillé or. Il a fait une grande lumière. Et il a vu que le or, il n'était pas bien pour les Shalim. Rachid explique, Rav Lamidrash, qu'il a mis le or à la Gniza. Il a dit pour les Tzadikim, la Tilavo, au monde futur, toute cette lumière-là, je le gardais pour eux. Et maintenant, le monde, il va être tenu par une petite lumière. Donc en fait, au début, Hachbokhu, il a mis une lumière énorme. Il a vu que les Rechaïm, ils allaient l'utiliser pour faire des bêtises. Et il a dit, je le garde, je le mets en Gniza pour les Tzadikim. Il dit, le Malbim, c'est un grand chidouche. Le Malbim, il dit, la maka trop chère, c'est quoi le... Comment la maka trop chère? On a dit que les Mitzrim, ils ont essayé de brouiller ce que Hachbokhu, il a dit, vaillé or. Et qu'est-ce que le Rocher, il vient, il dit dans le Malbim. Il dit que Makat Rocher, c'était pas comme Jboku, il a mis du noir, il a enlevé le soleil. Il dit, c'est le contraire. Makat Rocher, Jboku, il a sorti cette fameuse lumière qu'il avait mis à la Gniza. Il a sorti, il a mis en Mitzrayim. Tellement que cette lumière, elle est pour les Tzadikim, et les Rechaïm, ils n'ont aucun rapport, que les Rechaïm, ils sont aveuglés de cette lumière. Et c'est ça le Rocher. Et il écrit, Rachid dit que les 3 premiers jours, les Mitzrim, ils bougeaient encore. Les trois jours suivants, ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se lever, ceux qui étaient levés, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Comme ça, il écrit. Le Rocher, c'était quoi? Il dit, c'était en fait la lumière que Jboku, il avait gardée pour les Tzadikim, qu'il a ressorti en Mitzrayim. Et c'est ça que ça fait de. Ça fait le Rocher dans. Ça fait le Rocher dans tout Mitzrayim. Ça c'est dans Rocher. Dans Arbé, c'est les sauterelles. Alors Arbé, si vous regardez, il écrit Vayomer Hashem El Moshe, Bo El Paro. Bo El Paro, Paro et Arbé, Paro, le P et le Aïn, c'est des lettres qui se disent, le P c'est des lettres qui se disent avec la bouche. Elle se transforme en hébreu avec le P, il se transforme avec le bet. Le bet aussi se dit avec la bouche. Et le Aïn et le Aleph, c'est aussi des lettres qui se transforment. Donc par O, il y a le P et il y a le Aïn. Le P, tu le transformes en bet. Et le Aïn, tu le transformes en Aleph, ça fait Arbé. Par O, le P et le Aïn, tu le transformes, ça fait Arbé, ça fait les sauterelles. Et le Passouk qui dit, où les mains de sa père. Il y a écrit les mains de Shiti Ototai Elebi Kirbo. Shiti, c'est les mains de Shite pour ces deux Ototai. Ototai, c'est les signes, mais on les transforme en. Alors, comme ça, il faut dire le Passouk. Les mains de Shiti pour ces deux Ototai, deux lettres. Hachbokhoui, il y a un signe que depuis le début, Hachbokhoui va envoyer les sauterelles. par où on transforme en arbé. Et comment on transforme une deuxième passouk, les mains chétées au total, ces deux lettres là, ces lettres, le P et le Aïn, tu vas les transformer et tu vas arriver à réussir à trouver le RB. Alors il y a écrit que le RB, les sauterelles, comment s'est passé les sauterelles? Les sauterelles, ils faisaient deux choses, les sauterelles. Dans le Bokou, ils devaient faire deux choses. Svedini, les sauterelles. Premier din, ils devaient faire le rocher. Il écrit que les sauterelles, ils devaient faire le rocher dans Israël. Il écrit les chissa et en aret. Ils devaient couvrir. Et à part couvrir, les sauterelles, ils devaient dévorer tous les champs des Mitzrim. Alors la question, elle est, je comprends que les sauterelles peuvent dévorer à la limite tous les champs de Mitzrayim et pas aller dans les frontières. Parce qu'ils dévorent que ces champs, ils ne vont pas dans les frontières. Ils font leur travail. Mais comment c'est possible de couvrir, parce que alors, il y a tellement une masse de sauterelles que ça faisait de l'ombre, rocher, ça faisait de l'ombre. Alors ce rocher là encore dans Mitzrayim, on peut comprendre que ça couvre tous les champs de Mitzrayim, mais ceux qui étaient dans la frontière, alors il y avait de la lumière qui venait de là, alors les sauterelles, ils pouvaient pas manger, ils avaient besoin aussi de faire du rocher pour tout le monde. Ceux qui étaient là, la lumière elle rentrait par là. Donc pour eux ça n'aidait pas. Alors comment? C'est pour ça que le pasouk il dit va Ya'al va Tanach. Les sauterelles écrit va Tanach. Les sauterelles sont reposées. C'est quoi ils sont reposées? Ils ont fait une sorte de bulle comme ça dans les frontières, comme ça même le soleil ne peut pas rentrer dans ceux qui habitent dans les frontières. Ça c'est dans les sauterelles. Et je finis Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est la dernière Maka. Il y a écrit qu'avant qu'il y ait Makat Bechorot, il y a écrit les Maké Mitzrayim Bifroréem, on dit. Dans le Halel Agadol, on dit les Maké Mitzrayim Bifroréem. C'est connu, il y a écrit dans le Midrash qu'il y avait une guerre avant que je m'occupe de faire Makat Bechorot. Les Égyptiens, tous les Bechorot, ils sont frappés entre eux. Il y a écrit dans le Rachaim Akadol, c'est quelque chose de joli. Le Rachaim, il dit quelque chose de très joli. Il dit que les Bechorot, il y a beaucoup d'endroits dans les Gemarot, dans Shabbat, la Medalet, dans Brachot, dans Vakama, dans plusieurs endroits, on voit ce moussag là, cette notion Nathan et Navbo ve Nase Gal Shalatsamot. Il a mis ses yeux, le Rav, le Tana, il a mis ses yeux, il est devenu une montagne, une squelette. Alors il dit, le Rachem dit, ça veut dire quoi ça? Il a mis ses yeux, il est devenu une montagne de alors il dit que le Rachem Akadash, il faut le voir aussi dans la paracha, c'est très yesodi. Il dit qu'en fait chaque chose qui tient, même une table ou un stand, chaque chose qui tient, qui peut tenir dans ce monde là il a quelque chose de kadosh dans sa matière. C'est obligé. S'il tient, c'est pas que ça tient comme ça parce qu'il y a quatre pieds, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est kadosh, il y a une partie de Kdusha, de sainteté dans la matière. Comme ça le Rachem dit. Alors il dit que même une personne qui est Racha par exemple, elle a une Kdusha, elle a une sainteté, elle a une Neshama. Et en principe, elle se trouve dans la Neshama, dans les yeux. Il y a une règle que la Kdusha, elle attire la Kdusha, comme un aimant. Alors il dit, quand le Tana, il regarde le Racha dans ses yeux, Nathan et Navbo, puisque la Kdusha, elle attire la Kdusha, donc elle lui enlève la Kdusha, donc puisqu'il n'y a plus de Kdusha, il n'y a plus de Kiyum, il n'y a plus de... ça ne tient plus. Parce que tout ce que ça tient, parce qu'il y a tout ce qui tient, parce qu'il y a la Kdusha. Si tu enlèves la Kdusha, il n'y a plus rien. Alors il dit, c'est ça qui est écrit dans le Patsouk. Il y a écrit que Jboku, il dit, voilà, je viens Kichatsatayom en Mitzrayim. Et quand je veux venir Kechatsat Ayom Mitzrayim, ou mettre Kol Bechor. Quand on met Kol Bechor, fait quelque chose. Non. Il dit au Chaim, Jboku, il n'a pas besoin de rien faire. Et c'est que Jboku, il va venir en Mitzrayim, il va se dévoiler en Mitzrayim, automatiquement, ou mettre Kol Bechor, tout le monde va mourir. Parce que tellement qu'il y a la Kdusha qui va venir, donc la Kdusha attire la Kdusha, donc tous les Bechorot, chaque Bechor, il a une Kdusha. Donc ça attire la Kdusha, attire la Kdusha, et ça fait qu'il n'y a plus de. Hein?
Mais ceux qui ont fait le commandement, les juifs,
ça le jour il n'a pas touché. Il y a écrit que les, c'est pas que les béchor des hommes qui sont morts, mais c'est même les béchor béhéma. Et juste pour finir, on finit avec ça. Donc on a, notre chour, c'était le chour de la Emouna, des fondations, de bien, de ce qu'il faut retenir, c'est que Akshbaoukhou, à Yitzhak Nisraim, qu'est-ce qui s'est passé? À Yitzhak Nisraim, Akshbaoukhou, il a fait les fondations, il a formé les fondations par la naissance du peuple juif. Akshbaoukhou, il a mis le paquet, il s'est dévoilé, il a fait des choses que jamais il a continué à faire il a changé complètement la nature du monde. Pourquoi? Pour ancrer dans chacun de nous la Emouna. Ouais, et pour nous donner cette mila de Akratator. Et combien ça a duré? Il y a plusieurs. Ça a duré de 210 ans. Ouais, ça aurait dû durer combien de temps?
400.
Il y en a qui disent que c'était 430 ans. Ça dépend du compte, à partir de quand tu le comptes. Il y en a qui disent 430 ans. Mais il y a écrit dans le Midrash que combien de temps il y avait un shibud, ils étaient assujettis vraiment durement, 86. Qui est matria kos. Kos, c'est 86. Donc vraiment, si on il dit comme ça, en Israël, ils ont travaillé vraiment très dur, combien de temps? 86 ans, c'est avec matria de kos. Il dit, il y a écrit dans Parashat Vayera, il y a écrit Vaymaïrou et Trayem. Vaymaïrou et Trayem, c'est-à-dire qu'ils ont eu une vie amère. Le Gaon Mivilna, il dit. Et Gaon Mivilna, c'est connu que c'est pas que les Pirushim, mais c'est même. Il t'explique le Gaon Mivilna, il t'explique même les Ta'amim. Même les Ta'amim, le Gaon Mivilna, il t'explique. Il te dit que les Ta'amim de Vaymaïrou et Trayem, c'est Azla, Kadma, Vazla. C'est genre Azla Gerish. Ouais, Kadma. Ça veut dire quoi? Vaymaïrou et Trayem. Puisqu'ils ont eu une vie dure, donc c'est pour ça qu'ils ont eu moins de temps. Comme ça, le Gaon Mivilna, il dit. Mais on peut continuer, on peut expliquer ça un peu plus profond. Que on peut continuer le Gaon, en fait, je veux dire comme ça. Si on remarque 430 ans, combien de fois il y a 86 dans 430 ans? 5 fois bijou. Si tu fais 5 fois 86, et t'es égal à 430 ans. Et dans l'état anime, c'est Mouna Revi Segol. Mouna Revi. C'est-à-dire que le passage qui te dit Vaymaïrou et Trayem, on sait que à Yitzhak Nisraim, on prend 4 verres. Le soir de Pessah, on prend 4 verres de vin. Il dit le Torah Trayem prend 4 verres de vin. Il dit parce que 86, pas encore, ils ont travaillé durement 86 ans. Dans 430 ans, si, combien de fois il y a 86 ans?
5
fois. Si tu retires 4 fois. 4 fois 86, il reste une, donc il reste 86. Ouais, donc c'est-à-dire, il dit qu'il y a 4 cosses. Ouais, parce qu'il y a écrit 4 mavazla, Vaymaïrou et Trayem, donc Akshbaoukhou il a enlevé 4 cosses, il a enlevé, parce qu'ils ont eu quelque chose de dur, donc Akshbaoukhou il a retiré 4 fois 86, donc il reste que le 5ème cosse. C'est quoi le 5ème cosse? C'est le cosse de Gaon Avi. Ouais, alors comment on va gérer ce cosse-là? Pourquoi on le fait ce cosse? Ils ont travaillé dur, donc ils ne devraient pas le faire. Alors on dit parce que Bolamazé, dans ce monde-là, on sait que sur une mauvaise nouvelle, on dit Baudel Emet. Sur une bonne nouvelle, on dit Baud Atav Ametil. Quand on a quelque chose de bien, on dit on remercie le Jour. Mais par contre, il écrit que la Tzil vaut au monde futur, même pour une mauvaise nouvelle, on va dire Baud Atav Ametil. Donc on dit que Eliyahu HaNavi. Le cas de Gaon Avi, la Tilavo, on va comprendre que même les 86 ans qu'on a cru qu'on était assujetti durement, on va comprendre que même ça, c'était pour notre bien. Donc c'est ça que le cas d'Eliyahu, c'est-à-dire quand Eliyahu va venir, qui va être la Tilavo, là on va comprendre que même le dernier cas, qui est le cas à Hamishi, qui a l'air dur, et bien on va comprendre qu'en fait, ce qui était dur, c'est en fait c'était facile. Tout ça, c'est pour amener la Gaon Avi, la Shlema, Bimera, 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 Bimera.